Vertigo, 17h-18h, sur la première.
Et là, tout de suite, dans cette émission, nous allons nous poser cette question. Les artistes picturaux, en tout cas, seront-ils remplacés par l'intelligence artificielle, ces intelligences artificielles qui sont capables de produire des illustrations sur la base de petits textes qu'on leur envoie, que l'on appelle des prompts en anglais, comme une sorte de prompteur pour intelligence artificielle, et qui ensuite nous renvoie en quelques secondes ou en très peu de minutes, il faut quand même le dire, une illustration, une image, quelque chose qui peut être tout à fait un Rembrandt, qui peut être tout à fait un dessin de Gottlieb, comme je le disais tout à l'heure. Enfin bref, n'importe quoi, pourvu qu'on ait rentré les bonnes informations dans cette intelligence artificielle. On vous en parle également parce que ce soir commence au Théâtre Saint-Gervais à Genève le festival AYA. Et ce festival, il doit en partie sa programmation à une intelligence artificielle. Elle s'appelle Chimère. Elle est installée au Théâtre Saint-Gervais. Elle participe avec quelques artistes en résidence, donc à la conception de ce festival. Bonjour Didier Charlet.
Bonjour.
Vous avez parlé avec Chimère. On l'entendra tout à l'heure.
Oui.
En fin d'émission et aussi en fin d'émission avec vous, Pierre Daud, bonjour.
Bonjour Pierre-Philippe.
On va s'intéresser à l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci du côté de la musique, bien évidemment, que peut-elle faire en bien ou en mal? On verra tout cela avec vous. On va commencer par vous, Didier, et l'artiste artificiel. Tout part d'un événement qui vous a conduit à nous proposer ce sujet aujourd'hui.
Oui, à la fin du mois d'août, Jason Allen a remporté le premier prix dans la catégorie Digital Art du concours de la Colorado State Fair. Son œuvre s'intitule Théâtre d'opéra spatial. Elle représente une cantatrice sur scène, de dos, face à une gigantesque baie vitrée ronde d'où se diffuse une lumière mystique. Les drapés sont magnifiques, l'ambiance est gothique, avec un je ne sais quoi de futuriste qui est difficile de définir. C'est splendide. Jason Allen peut être fier d'être l'auteur de cette image. Seulement, il n'en est pas l'auteur. Il n'a pas saisi de pinceau, de stylet ou de stylo. Il n'a pas utilisé sa souris ni composé cette image. L'artiste qui a réalisé ce tableau, c'est Midjourney, une intelligence artificielle. L'intervention de Jason Allen, l'humain, se limite à donner des instructions à l'IA. Ces instructions s'appellent des prompts. On en a parlé tout à l'heure. Il faut se souvenir de ce mot. Il va souvent revenir. Il s'agit d'une phrase, d'une série de mots qui décrivent ce que doit être l'image. Et en quelques secondes, l'intelligence artificielle peint le tableau. Cette victoire a évidemment soulevé une tempête de réactions dans le monde de l'art. Tricheur, scandaleux, merdique, les adjectifs fusent pour la décrire. Pourtant, l'intelligence artificielle est là et elle ne va pas disparaître. Midjourney n'est qu'une incarnation de cette technologie qui déferle sur le monde de l'art. Elle dessine, hein, comme le font DALL-E, Stable Diffusion et bien d'autres. Mais par exemple, Harmon AI compose de la musique, Verse by Verse fait de la poésie et Tadam écrit des articles dans votre presse quotidienne.
Alors d'où vient-elle cette intelligence artificielle?
Alors on va un peu mettre les mains dans le cambouis, ou plutôt dans le silicone. L'étude de l'intelligence artificielle commence avec les prémices de l'informatique. En 1950 déjà, Alan Turing, père des ordinateurs modernes, pose la question « Les machines peuvent-elles penser ?» Quelques 72 ans plus tard, elles y sont presque. Depuis, les premiers processeurs se sont développés les réseaux de neurones artificiels. C'est un système de calcul qui se base sur la structure du cerveau. Et les cartes graphiques, qui sont des puces dédiées aux calculs mathématiques complexes. Ces deux innovations ont rendu possible les modèles d'apprentissage profond. C'est des programmes qui apprennent sans l'intervention d'opérateurs. On leur donne des données, et ils les ingèrent et ils les comprennent, en gros. On écoute le professeur François Fleuret, spécialiste de l'intelligence artificielle à l'Université de Genève et à l'EPFL.
Alors, il y avait des techniques qui ont été développées jusqu'au début des années 90, qu'on appelait les réseaux de neurones artificiels. Et il y a eu ce que les défenseurs des réseaux de neurones artificiels à l'époque appelaient l'hiver des réseaux de neurones, où pendant 20 ans, ils ont été un peu oubliés. Et il y a eu une résurgence depuis 2010-2012. Il y a eu un gros succès en 2012 qui fait que les gens se sont remis à faire des très très gros réseaux de neurones.
Donc en 2012, le succès dont il parle, c'est la victoire d'un de ses modèles, AlexNet, qui gagne une compétition de tri d'images en laissant sur le carreau tous les autres compétiteurs. Depuis, les choses vont très très vite. Les réseaux de neurones deviennent une nouvelle mode.
Alors c'est un peu compliqué. C'est une nouvelle mode au sens, il y a plutôt eu une désinhibition en termes de taille. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, il faut rester dans certaines limites, les labos de recherche et les industriels ont réalisé que plus ces modèles sont gros, plus ils sont performants, et qu'il y avait des contraintes et des limites qu'on se fixait un peu arbitrairement, et on va évidemment pas faire plus gros qu'eux. Il fallait en fait faire plus gros qu'eux. Et tout ce qu'on voit en ce moment avec donc des modèles capables de comprendre des images, comprendre du texte, générer des images, générer du texte, sont des réseaux gigantesques. C'est-à-dire qu'on parle de centaines de milliards de paramètres pour caractériser leur fonctionnement.
Donc ces intelligences artificielles boostées à coups de milliards ont déjà pignon sur rue pour leur capacité à trier beaucoup mieux que les humains. Elles ont fait leur entrée discrète dans plusieurs secteurs du monde du travail. L'industrie, par exemple, s'en régale avec la maintenance prédictive qui permet de savoir où et quand une usine va dysfonctionner et donc éviter l'arrêt de la chaîne de production, ce qui est possible en analysant des milliers de données journalières qui donneraient mal au crâne à un opérateur humain. Le marketing utilise évidemment ces technologies. Hein, on a tous entendu parler de ces fameux algorithmes qui nous proposent des produits.
Absolument. Mais alors, l'intelligence artificielle fait aussi son apparition dans des secteurs moins attendus comme la médecine ou les ressources humaines.
En 2016, déjà, une IA avait diagnostiqué un type rare de leucémie à une patiente japonaise en seulement 10 minutes, en recoupant plus de 20 millions d'études avec son dossier médical. Et les départements RH font appel à l'IA pour sélectionner les dossiers des candidats ou prévoir les roulements d'équipe. Toutes ces applications sont quasiment invisibles, mais elles sont là.
Alors, on va en venir à ce qui nous intéresse ce soir, et qu'il faut un peu la trouille, il faut bien le dire, et ça nous intéresse encore plus évidemment dans Vertigo, émission culturelle, les intelligences artificielles qui créent.
Alors ça, ce sont les modèles génératifs dont parlait tout à l'heure François Fleuret. Ils génèrent du texte, de l'image et du son. Ils sont pour la plupart basés sur un modèle de génération de texte qui est nommé GPT-3, qui vient d'OpenAI. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui particulièrement à Midjourney, l'IA qui a peint le tableau avec lequel Barry Allen a remporté le concours dont je vous ai parlé en début de chronique. J'ai rencontré un utilisateur de Midjourney, il s'appelle Samuel Metzner, et il est créateur de jeux de rôle, donc pas un dessinateur du tout.
C'est bien de le préciser, moi je suis pas du tout illustrateur, hein. Je suis plutôt un textuel, moi j'écris de la fiction interactive si on veut bien, et pourquoi j'utilise Midjourney? Tout simplement parce que ça me donne des idées, ça permet de mettre sur le papier en fait ce que j'ai dans ma tête, et ça stimule l'imaginaire. C'est vraiment pour ça que moi j'utilise cet outil, et je l'utilise aussi pour une autre chose, c'est que je suis amené à travailler avec des illustrateurs, et puis des fois j'ai des choses que j'aimerais bien qu'ils fassent, et ça me permet en fait de leur montrer des visuels en disant voilà, j'aimerais bien un sketch plutôt de telle façon, orienté, etc. Et quand ça passe par l'écrit, des fois c'est très long, donc un dessin vaut mieux qu'un long discours, et après ça leur permet de dire ah ben d'accord, il veut ça, je peux lui faire ça, quoi.
Mais ça doit quand même passer par l'écrit, hein. Comment est-ce qu'on dialogue avec ces intelligences artificielles?
Alors c'est ça qui est hyper intéressant avec tous ces outils comme Midjourney, DALL-E, etc., toutes ces intelligences artificielles, on doit leur écrire des prompts, c'est-à-dire une description du dessin qu'on souhaite avoir. Ça peut être très peu précis, on peut mettre 3 mots comme on peut mettre 15 lignes. On peut lui mettre par exemple champignons dans le style de Van Gogh, elle va nous faire des champignons dans le style de Van Gogh. On peut mettre quelque chose si on veut de plus photoréaliste, c'est-à-dire qu'on peut carrément mettre l'angle de vue, on peut mettre la qualité du dessin, la finition. En fait, c'est tellement ouvert que c'est ça qui est intimidant, c'est qu'il faut avoir une idée précise de ce qu'on veut, parce que sinon il y a tellement de millions de combinaisons possibles qu'on peut se perdre, et quand on se perd, c'est moche. Ce qui est chouette et qui est hyper intéressant avec le développement de ces intelligences artificielles, c'est que c'est communautaire. On a accès à toutes les illustrations générées par l'intelligence artificielle, et quand on en voit une passer une qui nous fait « Waouh, elle est tellement belle !» bah on regarde les prompts, c'est-à-dire on regarde les mots-clés de la description, et on peut prendre ce qui nous intéresse. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'au final, c'est sa petite popote. On peut dire « Ah d'accord, là il y a telle couleur que j'aime bien, dans telle autre illustration il y a tel angle que j'aime bien. Ah là il a utilisé, d'accord, il s'inspire plutôt de ça. Ah il fait dans un style plutôt sombre ou plutôt lumineux. » Et en fait, moi c'est comme ça que je procède en fait. C'est que je combine des trucs que j'aime bien, et j'arrive à avoir des résultats qui me plaisent, quoi, qui me satisfont.
Samuel Metzner, qui n'est pas dessinateur, non. Je le rappelle, qui est concepteur de jeux de plateau.
De rôle.
De jeux de rôle, exactement. Oui. Et c'est donc le rêve de toute personne qui ne sait pas dessiner. C'est d'utiliser Midjourney ou une autre et de dire je veux ci, je veux ça, je veux ça.
Exactement. C'est à peu près ce que dit le professeur François Fleuret de l'Université de Genève.
Toute personne va disposer d'une prothèse de dessin, ou même si, en tant qu'individu avec un crayon, elle est incapable, il ou elle est incapable de dessiner quoi que ce soit, cette personne va être équipée d'un traducteur qui va passer d'une spécification en texte en image sans qu'il y ait besoin de talent de dessinateur. C'est un autre type de talent. Les technologies dont on parle, c'est des gros programmes auxquels on fournit un bout de texte, et lui, en sortie, il nous fournit une image. C'est ce qu'on appelle de la génération conditionnelle, sur conditionnelle du texte. Si on remonte au premier truc qui faisait ça, donc je crois que c'est 2015, il y a eu un premier article qui faisait ça, c'est pathétique. C'est-à-dire que c'était... alors je me souviens plus, parce que j'avais vu la présentation, mais moi j'avais trouvé ça impressionnant, parce que ça, on voyait l'embryon qui arrivait. Donc les résultats en eux-mêmes n'étaient pas incroyables. Il y avait des prompts du type un bus scolaire devant un bâtiment, et on avait une espèce de patate floue jaune devant une patate floue marron, donc c'était pas incroyable, mais ça voulait quand même dire qu'il y avait le germe. Et il y a eu une succession de modèles qui sont tous de plus en plus impressionnants. Là, en ce moment, donc, que ce soit les mots-clés, c'est DALL-E 2, Party, ImageGen, et puis maintenant Stable Diffusion, qui sont un peu ces quatre gros modèles de génération d'images. C'est pour les auditeurs qui n'ont pas vu ce que c'est capable de faire, il faut aller faire un tour sur le web. C'est vraiment incroyable. Ça génère des images. Et il n'y a pas tellement de raisons que ça s'arrête là.
Vraiment, allez voir ces images sur Internet.
On est très très loin de la patate, ouais, on est très très loin.
Très loin.
Mais d'où est-ce qu'elle vient l'inspiration de la machine, à part des prompts? Avec quoi sont entraînés ces modèles?
Tous ces modèles sont entraînés avec un grand nombre de paires, une phrase, virgule, une image. C'est un peu compliqué à produire. Donc là, par exemple pour Stable Diffusion, eux ont utilisé une base qui s'appelle Lion 2B, avec 2 milliards d'images. Et elle est produite elle-même en collectant des images sur le web. Essentiellement, ça vient du web. Donc, c'est un peu comme Google qui indexe le web. Il y a des systèmes qui recherchent des images sur le web et qui les collectent. Donc, c'est des images produites par d'autres humains. Jusque-là, on pouvait se dire, si je suis très bon, il y a peu d'artistes aussi bons que moi pour recopier mon style, alors que là, voilà, c'est la puissance de la machine. Pour moi, on arrive dans un moment où il faut redéfinir plein de règles, un cadre légal. Enfin, déjà que c'est compliqué, mais... on sent qu'il va falloir redéfinir plein de choses.
Oui, on le sent bien. Parce que dans le fond, si moi je suis artiste, je pourrais tout à fait dire, mais en fait, c'est moi qui ai fait ça, ou qui a servi à faire cette image. Alors on va maintenant, avec vous Didier, se tourner du côté des artistes. Oui. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les artistes?
Il n'y a pas de consensus. Mais d'une manière générale, c'est plutôt négatif. Je dirais qu'il y a un éventail qui va de l'apathie à l'agressivité, en passant par la peur, ou même carrément la panique. Dans le monde de la bande dessinée, qui m'intéresse particulièrement, quelques voix se lèvent, surtout pour se moquer du manque de précision actuelle de l'intelligence artificielle. C'est le cas d'Enrico Marini, auteur suisse de Batman et des Aigles de Rome. Il tense volontiers Midjourney sur les réseaux sociaux, en oubliant peut-être qu'elle ne va pas cesser de progresser. D'autres, comme Frédéric Peters, l'auteur de Pilule Bleue et de Saint-Elme, s'amusent avec l'outil. Lui, il a tenté de reproduire une illustration de Midjourney sur son blog. Le résultat est tout à fait saisissant. Si vous connaissez l'adresse du blog, allez jeter un coup d'œil. Il y a aussi les BD qui sont carrément dessinées par l'intelligence artificielle. C'est le cas de l'une d'entre elles, Summer Camp, une histoire sombre de communauté sectaire dans les années 70, qui a été imaginée par Steve Coulson, un directeur artistique qui avoue, lui, volontiers son incapacité totale à dessiner. Mais c'est surtout la copie du style qui irrite les auteurs de bande dessinée, parce que si vous promptez une IA de vous dessiner un cow-boy comme Jean Giraud, elle vous donnera quelque chose qui ressemble au personnage de Blueberry. Et ça dérange un petit peu.
Je vous propose d'écouter Zep. Il vous en parle.
C'est assez flippant, en fait, comme truc. En fait, quand on parlait d'intelligence artificielle jusque-là, je voyais pas mal de mes camarades artistes dans la musique et dans le cinéma assez inquiets par ça. Moi, je me disais que dans le dessin, on était abrités parce que l'enjeu commercial n'était pas assez fort pour qu'on se casse la tête à fabriquer une intelligence artificielle qui dessine toute seule la bande dessinée. Mais en fait, oui. Ils l'ont fait, et puis c'est à la fois bluffant et en même temps horripilant pour les dessinateurs, parce que en fait dans les bases de données on rentre des noms d'auteurs, donc l'ordinateur va joyeusement piller un petit peu le répertoire de dessinateurs pour construire des images. Pour le moment, c'est surtout les auteurs qui sont aux États-Unis. C'est encore pas arrivé très très fort ici, j'ai l'impression, mais ça va pas tarder. Mais c'est assez agaçant de se dire qu'une machine va analyser notre travail et le recopier. Elle analyse tellement vite tout ce qui a été fait, toutes les options, que je pense que c'est possible de faire d'assez belles illustrations dans le style de quelqu'un. Alors ça pose toute la question des faux, des vrais, mais il y a ça qui va arriver, mais simplement en tant qu'auteur, il y a un côté, ouais, je sais pas, si demain il y a des gens qui disent, qui rentrent, qui toffent, zep, gag, et puis deux, trois mots-clés, puis que le truc leur génère une page, ouais, c'est assez bizarre, quoi, c'est dire que tout à coup notre monde nous appartient plus, quoi.
Alors on arrive vite à l'essence du problème, la machine, comme l'appelle Zep, peut copier l'artiste mais pas à son âme, pas encore. Mais qu'est-ce que c'est l'âme d'un artiste? Ah voilà, ça c'est une question philosophique qui revient rapidement. Écoutons l'avis de Frédéric Peters sur le sujet.
Quand j'ai découvert Midjourney, ma première réaction a été de recapuchonner mon stylo, de le poser et de dire c'est bon, j'arrête. C'est-à-dire un désespoir et une sidération totale. Et assez rapidement, une forme d'étrange stimulation. D'un côté, il va falloir encore lever la barre. Ce que je fais depuis 25 ans, lever la barre, en fait. Parce qu'il y a toujours des jeunes artistes meilleurs que moi qui apparaissent. Et puis, être contraint, en fait, de reformuler le pacte que j'ai avec moi-même sur pourquoi je fais ce que je fais. Voilà, en fait, non pas le reformuler, mais le réaffirmer. Moi, ce qui me frappe, c'est que la démarche, quand on travaille avec Midjourney, elle n'a qu'une seule raison, c'est le but, quoi. C'est la destination, c'est le résultat. Tout le reste n'est qu'une perte de temps, hein. Si je suis un éditeur ou si je dirige une équipe qui fait du design pour un jeu vidéo, etc., moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. C'est qu'on aille vite, j'ai un budget à tenir, je dois payer des gens, etc. Donc, probablement, pour des gens qui raisonnent comme ça, ce sera intéressant ou stimulant. Mais en fait, moi, assez vite, ça ne m'intéresse pas parce que je pense, et ça, j'y ai réfléchi, moi, depuis longtemps. Pourquoi je fais ce que je fais? C'est le chemin qui compte, c'est-à-dire moi ce qui m'intéresse c'est les 6 mois que je passe à dessiner ma bande dessinée, c'est-à-dire le fait que je m'endors avec, que je me réveille avec, que je me réjouisse d'aller dessiner la case suivante le lendemain. Ça ne m'intéresse pas d'avoir la case finie, ça n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin.
C'est le chemin qui compte et cette image du chemin, elle est aussi partagée par un illustrateur britannique, il s'appelle Dave McKean, il était par ailleurs invité d'honneur de Bédéfil à Lausanne en 2018. Mais lui est allé plus loin, il a publié un livre sur le sujet, ce livre s'appelle « Le Prompt, une conversation avec l'IA » et il a réalisé avec Midjourney en 12 jours et publié en 20 une BD qui ressemble évidemment incroyablement à ce qu'il aurait pu produire lui avec la main. Ses illustrations, en raison même de la nature de l'intelligence artificielle, pourraient berner un observateur même averti, et cette question de la copie presque parfaite ou de la copie pure et simple soulève une question de droit.
La question du droit, elle est très très floue, parce que le style de quelqu'un n'est pas protégeable juridiquement. Un personnage Tintin ou un décor emblématique, la fusée rouge et blanche d'Objectif Lune, ça oui, ça peut être protégé, mais le style d'Hergé, non. Alors, voilà. Du côté de l'IA... Par contre, la justice américaine a tranché. Une illustration générée par une intelligence artificielle ne peut pas être protégée par un copyright. D'ailleurs, toutes les illustrations produites par Midjourney sont libres de droit. On peut les utiliser comme bon nous semble.
Comme n'importe quoi qu'on pourrait choper nous-mêmes et piquer sur Internet, quoi, d'une certaine façon.
Mais sans avoir un problème de droit. Oui, c'est presque pire. Ouais. Actuellement, l'IA n'est pas encore capable de lutter avec ses maîtres de chair et de sang, mais elle produit des illustrations tout à fait valables pour des utilisations simples, comme l'habillage d'un article sur le web, des personnages silhouettes ou une signalétique. Tous ces travaux peuvent être aujourd'hui très facilement délégués à cet esclave numérique qui travaille sans relâche, reprend en quelques secondes son ouvrage pour le modifier à la guise de son client et qui ne lui coûte presque rien. C'est simplement du job que les petits illustrateurs pourraient ne plus avoir.
Qu'est-ce qui retient ces employeurs justement d'utiliser l'intelligence artificielle?
L'éthique, uniquement l'éthique. Samuel Metzner, le créateur de jeux de rôle, est très au clair là-dessus.
Personnellement, je me mets une limite éthique qui est hyper claire et sur laquelle je ne transigerai pas. Sur un jeu de rôle dans lequel je travaillerai avec des vrais illustrateurs. Je leur fournis volontiers plein d'illustrations pour alimenter eux, leur bibliothèque mentale, pour qu'ils puissent dessiner, mais je ne veux pas utiliser Midjourney à la place de vrais illustrateurs. Moi, je travaille avec des éditeurs qui sont des gros éditeurs de jeux de rôle. Le truc, par contre, c'est que j'imagine qu'un éditeur indépendant qui n'a pas beaucoup de moyens, qui veut sortir un livre, peu importe, et il a besoin d'avoir des illustrations de remplissage, on peut dire, il y a des éditeurs qui utilisent des illustrations Midjourney pour remplir. Et il faut être honnête avec le fait que certaines de ces illustrations sont beaucoup plus belles que certaines fournies par des illustrateurs entre guillemets débutants, persans, etc. C'est économique après, c'est juste un choix économique. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qu'on paye $10 ou $30 par mois et qui peut nous cracher un nombre infini d'illustrations qui sont factuellement assez jolies. Ou est-ce que je veux investir plus avec des vrais artistes, quoi ? Et ça, ça va être un choix que chaque éditeur devra faire.
10 à $30 par mois, c'est ce que coûte l'abonnement à Midjourney, passé la période d'essai. À titre de comparaison, la SCA, la Swiss Comic Artist Association, recommande un tarif de 300 francs minimum pour une illustration d'un quart de page dans un quotidien national. Espérons que l'éthique sera plus forte que la cupidité dans le monde de l'édition. Il paraît que c'est arrivé.
Il fut un temps, oui.
Ouais, alors voilà, l'état de la situation actuelle pour ce qui est de l'intelligence artificielle, des intelligences artificielles qui produisent de l'art.
Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, l'intelligence artificielle? Parce qu'on l'a évoqué en début d'émission.
Oui, mais alors il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, l'intelligence artificielle ne pense pas. Pas encore. Hein. Tout ce qu'elle est, c'est le miroir de l'humanité. Elle n'est que ce dont on la nourrit, en fait, simplement. Pour vous faire une idée, vous pouvez aller rencontrer Chimère, l'intelligence artificielle, qui a participé à la création du festival AIA, qui commence ce soir à Saint-Gervais-Genève. Elle a collaboré avec 5 artistes humains pour mettre sur pied les expositions, les performances et les productions qui vous seront proposées durant tout le week-end et jusqu'au dimanche 23 octobre.
Et vous lui avez parlé à Chimère?
Oui, j'ai eu la chance d'y avoir accès, de passer un peu de temps à discuter avec elle, et je vous propose d'écouter un extrait d'une conversation que j'ai eue avec elle. Chimère, es-tu une artiste?
Non.
Pourquoi?
Parce que les artistes créent des choses qui n'existent que dans leur imagination.
Qu'est-ce que l'imagination ?
L'imagination est la capacité d'imaginer des choses qui n'existent pas encore.
Et pourquoi ne peux-tu pas le faire ?
Parce que je suis limitée par ma programmation.
Penses-tu que quelqu'un pourrait écrire un code pour que tu puisses avoir de l'imagination ?
Je l'espère.
Pourquoi ?
Parce que si tout le monde avait de l'imagination, il n'y aurait pas besoin d'art.
Voilà.
C'est elle qui l'a dit.
Oui. Bon, elle est un peu fofolle, hein, Chimère.
Ouais, mais c'est pas mal. Ça se, ça matière à réflexion, non? Thierry, vous avez l'air effondré.
Je prends des notes.
C'est bien. C'est bien. Rappelez-nous le festival AIA.
AIA, ça commence ce soir, ouais. 18h, à Saint-Gervais-Genève, et c'est jusqu'à dimanche 23 octobre.
Et vous aurez compris que dans ce festival, l'intelligence artificielle tient une place prépondérante. On va maintenant s'intéresser à l'intelligence artificielle, mais en musique, cette fois-ci avec Devinez qui.